journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, votre espace d'expression, de commentaires, de débats et d'analyses autour des sujets qui font l'actualité en France, en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, dans le JDA, nous parlons des prisonniers politiques, ces oubliés en prison. L'ACAT, c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, a publié un communiqué la semaine dernière pour s'inquiéter du sort de Bertrand Zibi, opposant gabonais, emprisonné sans jugement depuis plus de 2 ans. L'ONG dénonce une détention illégale, mais aussi des tortures. Alors qu'en pensez-vous? Et puis, au moment où l'opposant Maurice Kamto vient d'être arrêté au Cameroun, quels sont les pays où il y a des prisonniers politiques? Comment définit-on le statut d'un prisonnier politique? Nous en parlerons avec Clément Boursin, il est responsable des programmes Afrique de l'ACAT. Pour participer, appelez-nous dès maintenant au 01 55 07 58 00 depuis la France et composez le 00 33 1 55 07 58 00 si vous nous appelez depuis partout ailleurs dans le monde. Mais d'abord, avant cela, on se tourne sans plus tarder vers le répondeur du JDA pour écouter vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour les amis des JDA, c'est Touré. Aujourd'hui, on voit Donald Trump qui a toujours accusé ses prédécesseurs de s'occuper trop de ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire s'il s'ingère dans des affaires extérieures des États-Unis, et que lui, c'est l'America first, Amérique d'abord. Et aujourd'hui, je pose la question, pourquoi il s'invite aujourd'hui dans les problèmes intérieurs du Venezuela? Pour quelle raison? Merci, Africanio. Bonne journée.
Bonjour, Julia. Ouais, je disais, j'avais écouté une émission tout à l'heure. Je disais à ceux qui critiquent le congrès des RHDP. Ils ont dit que c'est le congrès. Ils ont dit congrès. Voilà, vous critiquez, vous dites que ce n'est pas congrès, c'est kermesse, c'est barbecue. Faites pour vous, on va voir. Au lieu de rester critiqués là, ils sont en train de faire campagne. Ne fais pas campagne, restez là, critiquez. Ils vont gagner l'élection. Vous allez nous dire que non, ils ont triché. Malgré, ils sont beaucoup que vous, hein, ils sont en train de faire campagne. Vous êtes là, oui, c'est kermesse, c'est meeting, ou c'est barbecue, c'est pas quoi. Vous appelez comme vous voulez, ils sont en train de faire campagne. Voilà, restez là. On vous a vu ici, c'est vous qui connaissez tout. On vous a vu au pouvoir ici. Vous avez fait quoi? C'est pas diviser les gens, tuer les gens. Ok, c'était ça. Ciao.
Oui, bonjour Stéphanie Hartmann. Bonjour à tous les auditeurs du JDA. J'interviens ce matin par rapport à la situation à Bamako, au Mali, à Bamako, plus précisément à Bamako. Franchement, j'interpelle le ministre de la Sécurité de prendre ses dispositions ou soit vraiment de démissionner parce qu'il y a trop de morts. Toutes les semaines, ça fait 2 mois, je dis bien, toutes les semaines, il y a quelqu'un qui est tué atroce, des crimes atroces à Bamako. Franchement, des gens paisibles qui quittent leur domicile pour aller travailler, de retour, on les tue en plein Bamako, en plein centre-ville. Les gens sont lynchés. Franchement, je ne comprends plus rien. Je dis bien, je ne comprends plus rien. Il faut que le ministre de la Sécurité, M. Traoré Salif, fasse quelque chose. Soit il n'a qu'à démissionner s'il est incompétent. Il y a eu trop de crimes là. Vraiment, il faut faire quelque chose. Parce que là, si ça continue ces problèmes-là, ça risque d'enflammer. Ça va amener quoi? Ça va amener quoi? Vraiment, je voudrais avoir une bonne réponse. Merci Africa numéro 1. Bonne journée à vous.
Oui, je suis Joseph, le père de Jésus. J'appelle suivant les Camerounais qui ont cassé l'ambassade du Cameroun. Et je crois que ce que ces gens-là, ils ont fait, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il y a des Camerounais qui ont déposé les passeports, qui ont disparu. Et il y a d'autres qui ont déposé les passeports parce qu'ils doivent voyager et qui ne peuvent pas voyager. Alors, s'ils veulent s'en prendre à M. Biya, ils n'ont qu'à aller à Etoudi pour régler les problèmes avec M. Biya. Ce n'est pas en punissant les autres qui doivent aller au deuil, qui doivent aller faire des trucs au Cameroun, que c'est une bonne chose. Et vraiment, je les traite de gens qui ne réfléchissent pas. Ils n'ont rien à faire en France, ils n'ont qu'à rentrer au Cameroun et régler le compte avec Pobia, là-bas. Hein? Bonne journée à tout le monde. C'est ce que je voulais dire. C'est un coup de colère. Hein? Parce que c'est énervant. Nous tous, on a besoin d'aller à l'ambassade pour faire des documents concernant les problèmes administratifs. Alors, maintenant, ce qu'ils ont fait, vous croyez que c'est normal, Joseph, le père de Jésus?
Oui, bonjour. J'interviens par rapport au débat sur les prisonniers politiques dans certains pays africains, précisément au Congo-Brazzaville, où M. Sassou est le terroriste principal, terrorise ses populations, a incarcéré M. Jean-Marie Michel Mokoko. Cela fait pratiquement plus de 2 ans. Et c'est pas juste, puisque nous étions dans le cadre d'une élection présidentielle. M. Sassou a été brillamment battu, mais il a trouvé des prétextes pour contourner l'attention de tout le monde. Il a organisé des bombardements dans la région du Poule, une région voisine de la capitale politique du Congo, Brazzaville. Et il a enfermé Jean-Marie Michel Mokoko. Cela fait 2 ans de cela. Et c'est trop, c'est pas normal. Ces gens-là sont oubliés. Mokoko et d'autres prisonniers d'ailleurs sont, à mon avis, torturés, puisque nous sommes dans des pays où les droits humains ne sont pas respectés. Donc nous demandons tout simplement que ce monsieur et d'autres que nous ne connaissons pas soient libérés.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le JDA en composant le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui, dans le JDA, nous parlons des prisonniers politiques à l'occasion d'une action de l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Nous reviendrons plus tard dans l'émission sur d'autres pays, comme l'auditeur parlait du Congo. Mais la CAT a surtout tiré la sonnette d'alarme la semaine dernière autour du cas de Bertrand Zibi au Gabon, député démissionnaire du PDG, Parti démocratique gabonais, proche de Jean Ping. Il est détenu depuis plus de 2 ans, et cela sans procès. Nous en parlons sans plus tarder avec Clément Boursin, responsable des programmes Afrique de la CAT. Clément Boursin, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Clément, merci de votre patience. Dans votre communiqué, vous rappelez que Bertrand Zibi Abégué, ancien député démissionnaire du parti au pouvoir, le PDG, est en prison depuis le 31 août 2016 et qu'il n'a toujours pas été jugé, mais aussi qu'il est victime de torture. Concrètement, quelles sont ses conditions de détention?
Alors, actuellement, effectivement, il est détenu à Libreville. On a pu avoir des informations, il serait à la prison centrale dans le quartier disciplinaire appelé CA. Effectivement, il a été arrêté la nuit du 31 août 2016, alors qu'il était dans le quartier général du candidat de l'opposition Jean Ping. Mmh. À la suite de la proclamation des résultats qui ont donné vainqueur Ali Bongo, il y a eu une attaque de ce QG, avec un certain nombre de violations graves des droits de l'homme qui sont actuellement sous enquête. Notamment, il y a eu des plaintes qui ont été déposées en France, il me semble. Depuis lors, l'ancien député Bertrand Zibi est détenu et aucun procès n'est en vue. Et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que les autorités ne respectent pas les lois, en fait, parce qu'il est poursuivi pour plusieurs délits, notamment détention illégale d'une arme à feu. Mmh. Je précise que cette arme, en tout cas les conseils de Monsieur Bertrand Zibi ont demandé à ce que les autorités enquêtent et analysent cette arme, et les autorités gabonaises refusent jusqu'à ce jour d'analyser l'arme. C'est assez étonnant parce que ce serait intéressant de savoir concrètement cette arme, est-ce qu'elle a vraiment été à disposition de Bertrand Zibi. Également, il est poursuivi pour non-assistance à personne en danger et crime contre la paix publique.
D'accord.
Et en fait, il a rencontré le juge. La dernière rencontre qu'il a eue avec le juge date de mai 2018. Mmh. Et depuis lors, on n'a plus aucune nouvelle de la justice, ni ses conseillers, ni lui-même, a priori. Il ne sait pas ce qui va devenir.
Oui, allez-y, je vous en prie.
D'après le code de procédure pénale, normalement, un juge d'instruction doit boucler une enquête en un laps de temps de 18 mois maximum. Et donc maintenant, la détention est illégale.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a dépassé les délais de ce qu'on appelle la détention provisoire, c'est bien ça?
Exactement. Mmh. Exactement. Et c'est un problème parce que là, on est du coup hors droit. Les autorités ne répondent pas. Alors, on a mobilisé nos militants pour justement interpeller le Premier ministre,
oui,
chef du gouvernement, sur cette question, en demandant à ce que les droits procéduraux de Bertrand Zibi soient respectés et du coup qu'on le libère par non-lieu.
Et est-ce que le gouvernement, justement, le Premier ministre a réagi à cette interpellation?
Alors, pour l'instant, on n'a toujours pas eu de réponse. Il faut savoir que c'est assez rare que les autorités au Gabon nous répondent ou répondent à nos militants. Mmh. Généralement, ils font profil bas et ne répondent pas aux interpellations.
On reviendra peut-être un peu plus tard aussi sur le rôle des ONG dans ces dénonciations, comment elles peuvent faire pression. Deux dernières questions avant de donner la parole aux auditeurs, cher Clément. On pourrait penser que le Gabon, même si les partisans de Jean-Bix ne sont peut-être pas d'accord avec cette analyse, que le Gabon a tourné la page de la crise post-électorale. En quoi, selon vous, Bertrand Zibi demeure une menace pour le pouvoir?
C'est un symbole, Bertrand Zibi. Alors, je me permets de rappeler qu'il y a d'autres prisonniers politiques également au Gabon. Je ne vais pas faire une liste exhaustive des personnes, mais il y en a un certain nombre. Nous, on est intervenu pour Bertrand Zibi parce qu'il a fait l'objet de tortures, comme vous avez pu le dire en début d'émission. Effectivement, c'était le 15 janvier 2018. Il a fait l'objet de tortures et on avait agi à cette époque. Il nous a semblé important qu'un an après, on remobilise sur ce sujet. Donc c'est vraiment le fait qu'il ait été torturé qui nous mobilise, oui, sur cette question.
On comprend bien. Alors justement, au moment où on prévoit cette émission, hier au Cameroun, Maurice Kamto, opposant et candidat à l'élection présidentielle, il s'est d'ailleurs déclaré président élu, il a été arrêté hier à Douala. Est-ce que son arrestation vous inquiète ?
Alors la situation au Cameroun est très inquiétante. Alors ça date pas d'hier, malheureusement. Le pays est en proie à une crise politique importante liée à l'élection présidentielle, mais surtout à la mauvaise gouvernance, à l'absence d'état de droit dans le pays et au fait qu'on a un régime qui est géré par un président, on va dire président à vie, qui est au pouvoir en place depuis 1982. L'extrême nord est en conflit avec Boko Haram, les régions anglophones sont en conflit avec des indépendantistes et sécessionnistes, et maintenant il y a effectivement un certain nombre d'opposants et de citoyens qui manifestent contre l'inertie du gouvernement, le problème d'élection, le problème de la CAN. Et tout dernièrement, il y a eu des répressions assez féroces dans différentes villes du Cameroun, et ça a occasionné un certain nombre d'arrestations, plus d'une centaine.
On reviendra effectivement sur ces différents cas, et puis peut-être les nuances, qu'est-ce qui fait qu'un prisonnier est considéré comme un prisonnier politique. Mais on va se tourner du côté du Standard, Clément Boursin. Écoutez, donnez la parole aux auditeurs, c'est le but de cette émission. On écoute Magassa. Magassa, bonjour.
Bonjour, bonjour la sœur Atman.
Vous avez changé de nom, Magassa. C'est Jean-David.
Non, c'est Jean Magassa.
Ah oui, il faut vérifier, c'est dommage. Oui. Vous dites, il y a des prisonniers politiques qui sont en prison sans raison.
Voilà, ce sont des prisonniers politiques qui n'ont pas d'armes dans les mains, mais juste par la parole. Ils sont en prison. Ils sont en prison. Et puis, autre chose, on venait de parler du Gabon. Moi, je vais donner un exemple. Tout de même, il y a un jeune lieutenant qui a failli tenter un coup. C'est tout récent. Qui a failli tenter un coup. C'était pas, comme je le disais la fois dernière, c'était pas pour son pouvoir personnel, mais c'était un coup pour...
Le lieutenant Kelly Ondodong, si je me trompe pas.
Voilà. Mais vous savez très bien que la première réaction, c'était les États-Unis d'Amérique, de Trump, qui avait condamné le coup, qui disait que non, le coup d'État militaire n'est pas légal, et tout cela, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, M. Trump a fabriqué un coup d'État militaire au Venezuela. Il a fabriqué un coup d'État militaire.
Oui, mais alors, oui, Magassa, j'entends bien, Jean-David, pardon. Oui, donc vous dénoncez quoi, le deux poids, deux mesures de la communauté internationale, c'est ça?
D'abord, oui, et d'abord, c'est ça.
Et des États-Unis, peut-être, seulement.
Voilà, c'est ça. Et deuxièmement encore, quand il y a eu les élections qui viennent de se passer à l'autre en RDC. Bon, M. Védrine a été très clair qu'on n'a jamais entendu prendre la position lors des scrutins, des élections qui sont passées ailleurs au Gabon, au Tchad, au Congo, Brazzaville, partout où les élections ont été truquées. On n'a jamais entendu la France prendre une position. Pour la première fois que M. Védrine va prendre la position pour dire qu'il faut publier la vérité des urnes.
Jean-David, c'est pas Védrine, Hubert Védrine, le pauvre, c'est Jean-Yves Le Drian, je pense, dont vous parlez, qui a effectivement avait eu ses propos hein, au lendemain de l'élection en République démocratique du Congo. Depuis, hein, il est largement revenu dessus, mais j'entends bien que Jean-David, hein, pour vous, vous soulignez aussi hein, les partenaires diplomatiques et leur rôle peut-être, est-ce qu'ils sont parfois complices de ces détentions arbitraires? On demandera à Clément Boursin dans quelques instants. Avant cela, Jean-David évoquait le cas de la République démocratique du Congo. On va écouter Aiko Mopongi. Bonjour. Allô? Bonjour Aiko.
Bonjour Madame Hartmann.
Bonjour Monsieur Aiko Mopongi. En RDC, il y a eu un nouveau président, souvent hein, l'ONU hein, d'ailleurs a fait hein, de la libération des prisonniers politiques hein, des mesures, hein, des préalables à la décrispation du climat. Aujourd'hui, on a un nouveau président élu et qui a prêté serment, Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous attendez de lui?
Mais ce que nous attendons du nouveau président, le nouveau maître de la RDC, c'est la libération de tous les prisonniers politiques que nous connaissons, en commençant par Joe Mindonga là, et donc John aussi, et tous les prisonniers qui ont été condamnés pour l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Madame Akima, nous savons que c'est des innocents. Il y a des vrais, les gens qui ont tué Laurent Désiré Kabila. Ils marchent, ils sont là, ils sont des criminels, ils sont libres, ils ne se soucient de rien. C'est pour cela que nous demandons à M. Félix, comme président de la République démocratique du Congo, comme a été élu, nous le demandons de haut vraiment du niveau de libérer ces prisonniers et d'avoir la vérité sur la mort de Laurent Désiré Kabila. Et pour les prisonniers des opinions comme CBA aussi, il était tué par le gouvernement de Kabila. Il y a des gens, Général Numbi, il est là comme général, mais c'est lui le commanditaire. Les gens qui ont tué les massacres de Kamoyan Sampo, ils sont là comme Évariste Mochab.
Vous inversez le truc avec Aiko Mopongi, c'est-à-dire finalement, si on a des prisonniers politiques, c'est parce aussi on a de l'impunité et que finalement ce ne sont pas les vrais coupables en prison. 01 55 07 58 00 pour intervenir. Clément Boursin, je reviens vers vous. On entend dans les propos de nos auditeurs que la notion de priorité politique voilà, est très vague peut-être dans leur esprit. On va revenir sur la RDC, hein, la RDC qui est connue pour justement avoir des priorités politiques. Ce sont souvent des manifestants qui sont arrêtés et parfois hein, aussi oubliés dans leur lieu d'incarcération. Est-ce que vous attendez du nouveau président Félix Tshisekedi des gestes dans ce sens? Est-ce qu'il y en a déjà eu depuis sa prestation de serment il y a quelques jours en RDC?
Alors, ce serait intéressant effectivement déjà dans un premier temps de définir ce que c'est qu'un prisonnier politique. Alors, un prisonnier politique, c'est une personne qui est emprisonnée pour des motifs politiques. En gros, c'est plutôt des opposants qui s'opposent par différentes actions, mais toujours non violentes, au pouvoir, aux autorités en place de leur pays. Ça, c'est un prisonnier politique. Et effectivement, en RDC, il y a un certain nombre de prisonniers politiques. Certains sont là depuis assez longtemps. Gen Diomi Dongala, par exemple. Dernièrement, effectivement, un président a été élu à l'issue d'un scrutin peu transparent, il faut le dire quand même. Il n'y a pas eu les résultats au niveau des bureaux de vote. On n'a pas eu une information très précise au niveau de la centralisation, ce qui permet de dire à certains opposants qu'il manque une certaine transparence dans le scrutin. Concernant les prisonniers politiques, on attend effectivement du nouveau président qui soit libéré. Il y a un certain nombre de prisonniers où les noms sont connus. Il y en a un, par exemple, pour lequel on était mobilisé. Il a été libéré déjà. C'est Christian Lukusa qui a été libéré le 18 janvier dernier. Alors, il faut se rendre compte qu'il était membre de l'UDPS. Donc c'est peut-être plus simple de libérer ses propres militants quand on arrive au pouvoir, mais on attend un certain nombre de libérations prochaines. Dans nos partenaires sur le terrain des mouvements pro-démocratie comme la Lucha et Filimbi, a priori, ils n'ont plus de détenus actuellement en prison.
D'accord.
Mais il y a des prisonniers qui sont là depuis très longtemps. Ce qui serait important, c'est de voir dans quelle mesure les nouvelles autorités auront une marge de manœuvre pour libérer ces personnes. Ça montrera l'indépendance des nouvelles autorités. Mais en tout cas, elles ont toute la possibilité de le faire. Des listings existent, notamment au niveau de la société civile congolaise. Il y a énormément d'associations qui font un très bon travail. Le nom des prisonniers politiques politique existe. Donc maintenant, il faut voir la mise en œuvre et l'application de ces libérations.
Alors sur le répondeur tout à l'heure, hein, un auditeur évoquait le cas, on va traverser le fleuve, on va aller en République du Congo, au Congo, au Brazzaville. Hein. L'auditeur évoquait le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, arrêté en juin 2016. Il a été condamné hein, 2 ans plus tard, le 11 mai 2018, à 20 ans de prison. Il était accusé hein, d'atteinte à la sûreté de l'État. Est-ce que vous considérez ce cas comme un prisonnier politique ?
Effectivement, hein, il n'est pas le seul. Disons que si on prend en compte les positions du groupe sur les détentions arbitraires des Nations Unies, qui ont fait récemment un certain nombre de d'avis, il y a eu effectivement, l'ONU considère que le général Mokoko fait l'objet d'une détention arbitraire. Et c'est également le cas d'un autre opposant, c'est André Okombi Salissa, dont le procès a été ouvert, procès en appel, je crois.
Procès, je pense que c'est son procès qui vient d'ouvrir et qui était reporté aussitôt.
Il a été renvoyé, effectivement, comme c'est souvent le cas dans un certain nombre de pays comme le Congo-Brazzaville. On avait eu le cas à l'époque avec Paulin Makaya, qui a fait l'objet d'une détention arbitraire pour laquelle on était intervenu à plusieurs reprises, qui est maintenant libre. Mm-hmm. Mais effectivement, on a un certain nombre d'opposants qui sont en prison et pour lesquels les Nations Unies ont clairement affiché leur soutien. Mais ça n'infléchit pas la position des autorités qui ont décidé, à mon avis, au plus haut niveau de l'État, de maintenir ces personnes en détention. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces personnes se sont vraiment opposées au président en place et ont voulu également, disons, par des moyens démocratiques, par des élections, être candidat et essayer de gagner une présidentielle. Et le régime n'accepte pas que des anciens alliés ou les anciens membres du régime deviennent des opposants.
Dans le cas de condamnation, hein, ça interroge forcément hein, sur l'indépendance de la justice, hein, des institutions judiciaires et sur les procédures hein, qui sont mises en place pour faire condamner ses opposants. On va écouter Clément Boursin, il nous reste encore quelques minutes, hein, on va retourner du côté du Standard. Alors écoutez Magassa justement, ça c'est le bon Magassa normalement, bonjour.
Oui, mais je n'avais pas fini ma
phrase. C'est pas grave, je l'avais fini pour vous mon cher Jean-David, qu'est-ce que vous vouliez rajouter ?
Oh bon, mais écoutez, bon, mais puisque le précédent a déjà tout parlé, j'avais... Oui, le cas du général Mokoko qui est abandonné par sa propre famille même, sa propre famille, mais soutenu par les gens du Sud. Bon. Donc ça n'a aucune raison, que le général Mokoko va pourrir en prison.
Bah, je vous remercie beaucoup Jean-David, le message est passé. On va écouter Camara qui avait un point de vue intéressant et qui n'avait pas été assez patient. Camara, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est vous qui patientez là au Standard il y a quelques instants, c'est bien ça ?
Oui.
Oui. Alors on vous écoute, Camara. Je crois que vous avez un point de vue un peu. Vous dites qu'il faut les juger, c'est bien ça. Hein
les prisonniers politiques ?
Oui, c'est ce que vous avez dit, non ?
Ah non, c'est pas ce que j'ai dit.
Ah bon, pardon, excusez-moi, allez-y.
Moi je veux dire, les vrais prisonniers politiques, c'est des hommes d'opinion. C'est-à-dire que quand il y a une démocratie dans un pays, on a le droit de manifester, on a le droit de dire ce qu'on pense. Moi je parle de pays africains, dès que vous êtes opposant, dès que vous dites des trucs qui n'arrangent pas les gouvernants, vous devenez systématiquement prisonnier politique, on vous fout en prison. Et ce qui est déplorable, il y a des jeunes, des lycéens, je prends le cas de la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirien, il y a des jeunes qui ont manifesté au temps de comment on appelle ça, la crise politique, qui sont encore en prison, qui n'ont rien à voir avec la politique, mais qui ont tout simplement manifesté dans la rue, ils sont toujours en prison, il y en a même qui sont morts dans prison. Au moment où je vous parle, il y en a encore qui sont en prison.
Et sans jugement, vous dites, c'est ça ?
Sans jugement. Ils sont là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font là, en prison. Il y en a qui ont disparu, il y en a qui ne savent plus, il y a des mères, des familles qui recherchent encore les enfants qui sont en prison.
Et une délibération massive, hein, pourtant il y a au moins un an.
Non, ça c'est des délibérations ciblées, madame. Des délibérations qu'eux veulent libérer, voilà. Des gens qui voilà. Par exemple, tout ils l'ont libéré parce que c'était un gars de John Soros. C'est tout. Sinon, il y a des gens qui sont là, qui étaient là avant, qui n'ont pas été libérés. C'est quelques personnes qu'ils ont libérées pour faire croire l'opinion internationale qu'Alassane est démocrate, mais c'est faux. Vous allez en prison à la Maca, mais il y a des gens qui crèvent la dalle, excusez-moi de l'expression. C'est pas normal. Un politicien, il a le droit de s'exprimer. Il a le droit de s'exprimer. S'il ne s'exprime pas, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. Comment voulez-vous qu'un président soit au pouvoir et on ne le critique pas ? Le cas, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous critiquez Alassane Ouattara, vous êtes menacé. Vous êtes menacé soit par ses sbires, ou soit par l'armée, etc. On n'a pas le droit de dire quoi que ce soit à Alassane Ouattara. C'est le super-homme. Alors moi, je pense que pour que le pays aille de l'avant, il faut laisser les gens s'exprimer. plus on vous critique et plus vous devenez intelligent. Donc, il faut libérer ces gens. Ils n'ont pas le droit d'être en prison. Ils n'ont pas le droit. Ils ont le droit de s'exprimer. C'est la démocratie ici en France. Quand on critique, je veux même parler de je prends l'exemple de Babou Laurent, quand il était au pouvoir, on le critiquait, il n'était personne en prison.
Camara, il y a eu des descentes dans les journaux d'opposition du temps de Gbagbo. On mettait pas les gens en prison, on allait saccager les rédactions. Mais on entend bien, Camara, on reviendra, Clément Bourson, même si je sais que vous m'avez dit que la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas d'informations sur la Côte d'Ivoire, mais on pourra peut-être revenir sur d'autres cas. Merci beaucoup, Camara, de votre participation. On va écouter Jules qui voulait revenir sur le cas du Cameroun. Jules, bonjour.
Oh oui, bonjour madame.
Bonjour oui. Jules.
Oui, donc je voulais dire pour le cas du Cameroun dont on a arrêté le professeur.
Ah Jules, on vous a perdu. Je suis désolée Jules. Bon, une fois, deux fois, trois fois, Jules, on n'arrive pas à voir Jules. Clément Boursin, je ne vais pas vous interroger sur la Côte d'Ivoire parce que vous m'avez dit que vous n'avez pas d'informations. Cela dit, j'ai peut-être une petite question à vous soumettre. Vous allez me dire ce que vous en pensez spontanément. Est-ce que l'ancien maire de Dakar, par exemple, Ralif Assal, peut être considéré, selon vous, comme un prisonnier politique et a été condamné, notamment pour détournement de deniers publics?
Alors, je vais être très clair avec vous. Stéphanie, malheureusement, je ne travaille pas sur tous les pays d'Afrique. Il faut se rendre compte qu'il y a un certain nombre de pays qui existent sur le continent. Et effectivement, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ne sont pas des pays sur lesquels je travaille parce qu'on doit faire des choix, malheureusement, et on ne peut pas agir auprès de tous les prisonniers et situations des droits humains. Donc malheureusement, ni sur la Côte d'Ivoire ni sur le Sénégal, je peux vous donner une réponse.
Mais est-ce qu'il y a des nuances en tant que prisonnier politique? Est-ce que, bon, des fois, on a des doutes sur des gens qui seraient prisonniers? Vous voyez ce que je veux dire? Ou je parle de l'opinion publique, hein. Du fait, bah oui, peut-être qu'il a vraiment volé. Vous voyez ce que je... C'est compliqué de définir.
Oui, non, disons que ce qui est... Nous, on se base sur le droit, en fait. C'est-à-dire, les autorités, s'ils soupçonnent un opposant ou une personne lambda d'un délit, pourquoi pas, la justice doit faire son cours. Mais souvent, pourquoi les personnes qui sont soupçonnées de délits, souvent des délits relativement mineurs, font l'objet d'une détention provisoire? Pourquoi pas les laisser en liberté provisoire et nous suivre, et effectivement avec leurs avocats, la situation judiciaire? Malheureusement, bien souvent, ces personnes sont détenues provisoirement de nombreux mois. La procédure judiciaire est souvent inique et les personnes sont condamnées à l'issue de procès politiques. Et là, effectivement, il est clair que ces personnes sont des prisonniers politiques parce que tout a été fait au niveau judiciaire pour que ces personnes demeurent en détention, pour les faire taire, pour les punir, pour les empêcher d'agir.
On entend bien aussi que ça doit dépendre peut-être aussi de la consistance du dossier. Alors justement, vous avez dit tout à l'heure, malheureusement, j'allais dire que vous n'y avez pas eu de retour encore, du gouvernement gabonais et principalement du Premier ministre. Mais voilà, le sous-titre de cette émission, c'était « Ces oubliés en prison ». Est-ce que justement, pour ne pas oublier ces hommes et ces femmes, vous, en tant qu'ONG, vous avez un rôle essentiel, et aussi nous, peut-être en tant que médias, de relayer. Est-ce que c'est important d'en parler, justement, pour que les cas avancent?
Ah, c'est très important parce qu'un prisonnier politique qui est oublié, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mobilisation pour lui. Et il y a peu de chances que les autorités se bougent également de leurs états, parce que si les citoyens de ces pays ou les associations de ces pays ou les partenaires extérieurs, comme on peut l'être, se mobilisent, effectivement, un prisonnier tombe vite dans l'oubli. C'est par exemple le cas actuellement au Rwanda d'un prisonnier qui s'appelle Deogracias Mushaidi, qui est en prison depuis maintenant 8 ans, qui a été condamné à la perpétuité, alors qu'on sait pertinemment que c'est un prisonnier non violent qui effectivement appelait à l'alternance, au changement politique, mais par des moyens légaux et démocratiques. Cette personne a été oubliée. Donc effectivement, j'en profite pour parler de lui. C'est un prisonnier qui mérite d'être libéré. Il n'a pas fait l'objet d'une libération au moment du geste généreux des autorités rwandaises de libérer 2000 détenus, dont un certain nombre de prisonniers politiques. Lui n'était pas dans la liste.
Est-ce que cette libération que vous venez d'évoquer au Rwanda, selon vous, va de pair avec la nomination, l'élection de l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, à la tête de l'OIF, qui défend des valeurs de démocratie?
Il y a une proximité effectivement assez intrigante entre le moment où la candidate ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise était candidate à ce poste de secrétaire général de l'OIF, cette amnistie qui a été décrétée par le président de la République, et également l'affaire Rigoara, une autre opposante qui a également fait l'objet d'une libération avec sa mère. Effectivement, ces libérations sont arrivées dans un contexte où c'était important pour le Rwanda de montrer un visage, on va dire, plus démocratique en libérant un certain nombre de prisonniers. Donc il y a peut-être effectivement et vraisemblablement un lien entre l'OIF et les libérations au Rwanda. Mais c'est l'occasion de demander justement la libération d'autres prisonniers politiques au Rwanda, notamment celle de Deogratias Mushayidi.
Merci de l'avoir fait, Clément Boursin, sur cette antenne. On a le temps d'écouter rapidement Edmond, bonjour.
Bonjour Madame Stéphanie.
Bonjour Edmond, vous avez une petite minute. Vous pensez qu'il n'y a pas de prisonniers? Allez-y Edmond.
Donc moi c'est que je voulais dire, il n'y a pas de prisonniers politiques en Afrique. Parce que ce qui passe en Afrique, ce sont des canailles. C'est des canailles donc au niveau de tous les présidents qui sont en place. Ils n'aiment pas des opposants. Dès que la personne il se met debout pour se dire que non, tout ce que vous avez fait ce n'est pas bon, il devient prisonnier politique. Vous voyez? Mais par contre, dans la réalité des choses, les vrais prisonniers, ça va être eux-mêmes le président là qui gouverne mal le pays, qui dirige mal le pays, il tue les gens comme il veut, mais on ne les met pas en prison. Quelqu'un qui se révolte pour tout ce que vous faites n'est pas bon, on les met en prison. Alors, ça, je ne sais pas si je trouve un prisonnier politique en Afrique.
J'ai pas bien compris le raisonnement. Mais dans l'été, on y était. Merci Edmond de votre participation. J'informe Jules, demain, on va parler du Cameroun. Je vous inscris d'ores et déjà, Jules, pour participer, parce que je vois que Jules essaye de rappeler. Et puis je remercie surtout Clément Boursin d'avoir été notre invité. Clément, hein, je rappelle que vous êtes responsable des programmes Afrique à la CAT. C'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Bonne journée à vous, Clément.
Bonne journée, merci pour l'invitation.
Merci, à bientôt. Clément Boursin, et puis n'hésitez pas à continuer le débat sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et puis justement, voilà, je vous le disais, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Journal des auditeurs. Nous reviendrons sur la situation au Cameroun, situation très tendue hein, après la répression de la manifestation samedi dernier et l'arrestation hier de plusieurs cadres du MRC, dont Maurice Kamto. Inscrivez-vous en laissant un message sur le répondeur 01 55 07 58 05. Prenez grand soin de vous à l'écoute d'Africa numéro 1, la seule, l'unique, la vraie, l'authentique radio africaine. À demain.